Accueillons-nous les uns les autres et que les soucis qui nous habitent n'entravent pas notre marche commune à la rencontre de Jésus le Christ. Il est là. Réjouissons-nous. Notre Dieu accomplit sa promesse. Le Seigneur est venu dans l'humilité pour le salut de tous. Il reviendra dans la gloire pour notre jugement et notre délivrance. C'est cela, notre joie. Vous qui avez bravé le temps, les intempéries, je vous invite à vous lever pour invoquer sur nous la présence de notre Seigneur. Jésus-Christ, Fils de Dieu, Prince de paix, tu révèles à tous les humains le visage du Père. Entraîne-nous dans la joie des croyants que nous reconnaissons le Messie annoncé par les prophètes, le Sauveur attendu. Amen. Et je vous invite à chanter « Ouvrir les mains, cueillir la lumière ». Nous louons Dieu avec le psaume 29. Rendez au Seigneur, vous les dieux, rendez au Seigneur gloire et puissance, rendez au Seigneur la gloire de son nom, adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. La voix du Seigneur domine les eaux, le Seigneur domine la masse des eaux. Voix du Seigneur dans sa force, voix du Seigneur qui éblouit. Le Dieu de gloire déchaîne le tonnerre et tous dans son temple s'écrient « Gloire !» Au déluge, le Seigneur a siégé, il siège le Seigneur, il est roi pour toujours. Prenez place. Les psaumes, notamment celui que nous venons d'entendre, sont des témoignages. Eh bien, j'aimerais vous faire écouter un autre témoignage qui a été enregistré. Et peut-être, sans doute, reconnaîtrez-vous la voix.
« fait. C'était, oui, il y a un mois. L'an est passé au mois de décembre. Je descendais du train et je me dirigeais vers la gauche, de l'autre côté d'une placette, où au pied d'un immeuble, il y avait écrit en bleu « Église protestante ». Étant protestant et ayant vécu dans une famille protestante, cela ne me choquait pas. Et comme j'étais en avance pour une fois, je me suis dit, tiens, pourquoi je ne rentrerai pas? Il y avait du monde à l'extérieur. Je m'avançais, je rentrais, je fus accueilli. Et là, je me trouvais une place la plus discrète possible, pour que personne ne me regarde. Les chants étaient affichés contre le mur au fond. Et pendant toute la fête, on put voir des images, des magnifiques paysages. Bref, j'étais bien. C'était un avant-Noël. Ça chantait des chants chrétiens de l'avant-Noël. C'était merveilleux. En ce dimanche, cela me rappela plein de bons souvenirs. Dans cette vallée du Rhône, quand j'étais enfant, une fois un sapin avait failli tomber parce qu'elle éclairait les bougies avec une boîte d'allumettes. Il n'y avait pas les LED chinoises à l'époque. Je me souviens aussi, une fois le pasteur m'avait dit « Tu vas faire Joseph avec une fille de l'école publique. » J'étais tellement gêné. C'était tellement timide que je n'aurais voulu être tout petit pour que personne ne me voie. Et je me souvenais de ce temple que j'avais visité quand j'étais catéchumène à l'âge de 16 ans au cours d'un voyage. Ce temple qui a 60 ans. Et pendant la réunion, pendant le culte, il y a eu un couple qui bénissait leur mariage, qui avait été béni il y a 60 ans, rendez-vous compte. Ainsi va la vie. Pas trop sûr de moi, je restais bien dans mon coin. C'était très intéressant. Le fil conducteur avec les menus de Noël. Jeunes qui chantent, qui avaient fait une pièce de... Une scénette. Je ne me souviens pas du nom du titre. C'était...
Oiseau de Noël.
Oui, voilà. C'est bien ça. Eh bien, puisque vous vous souvenez de tout, merci d'être venu. On va monter au premier étage et on va continuer à parler de ce Jésus qui est dans nos cœurs et qui nous aime tous les jours en cette année 2026.
Je vous invite à chanter, je pense que tout le monde a reconnu la voix. Je vous invite à chanter « Chante Alléluia au Seigneur », on va le prendre deux fois. Parole du prophète Ésaïe. Il arrivera dans l'avenir que les montagnes de la maison du Seigneur, que la montagne de la maison du Seigneur sera établie au sommet des montagnes, qu'elle dominera sur les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples nombreux se mettront en marche et diront « Venez, montons à la montagne du Seigneur. Il nous montrera ses chemins et nous marcherons sur ses routes. » Il sera juge entre les nations, il sera l'arbitre des peuples, de peuples nombreux. Martelant de leurs épées, ils en feront des socs. De leurs lances, ils feront des serpes. On ne brandira plus l'épée nation contre nation. On n'apprendra plus la guerre. Venez, marchons à la lumière du Seigneur. Nous chantons le psaume 86, les deux premières strophes, à mon cri. Prête l'oreille. Je vous invite à vous asseoir et nous prions. Seigneur, nous avons entendu l'espérance de ton règne d'un monde réconcilié autour de ta parole, d'un monde de paix et de justice, d'un monde où les épées seront martelées en socs, les lances en serpes, d'un monde où l'on n'apprendra plus à se battre. Ce monde que nous attendons, nous sommes invités à le préparer, dans notre pays, dans notre ville, notre rue, notre maison. Nous te remettons nos haines et nos rancunes. Pardonne notre manque de compassion. Nous déposons notre indifférence et notre violence. Pardonne notre manque d'amour. Nous te remettons notre orgueil et notre convoitise. Pardonne notre manque d'humilité. Nous déposons nos habitudes et notre lassitude. Pardonne notre manque de courage. Nous te remettons nos infidélités et notre paresse. Pardonne notre manque de persévérance. Nous déposons nos enfermements et nos tristesses. Pardonne notre manque de foi. Que l'attente de ton règne nous réveille de la torpeur, qu'elle brise nos chaînes et convertisse notre cœur. Voici l'alliance que j'ai faite, que je ferai, dit le Seigneur. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur. Le Dieu de miséricorde nous accorde son pardon et nous rend capables de faire sa volonté. Dieu nous pardonne et nous accueille. Rendons grâce à Dieu pour son pardon. Je vous invite à vous lever et à chanter. Vous bondirez de joie. Pas sur la glace. Prenez place. Deux textes aujourd'hui proposés par le lectionnaire. Le premier dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 42 et la seconde dans l'évangile de Matthieu au chapitre 3. Mais avant d'écouter, nous prions. Père, par une étoile, tu as appelé les mages à chercher ton fils bien-aimé. Et par la parole du prophète, ils t'ont trouvé et adoré comme leur Seigneur. À nous aussi, fais connaître ta parole, afin qu'elle nous conduise au Christ comme l'étoile a conduit les mages. Donne à celles et ceux qui n'ont pas encore entendu cette bonne nouvelle de la découvrir à leur tour et d'accueillir avec joie celui que tu envoies, Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen.
Ésaïe chapitre 42, versets 1 à 7. Voici mon serviteur, celui que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis sur lui mon esprit, il manifestera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point sa voix et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera pas le roseau cassé, et n'éteindra pas le lumignon qui fume encore. Il manifestera la justice avec vérité. Il ne se ralentira, ni ne se précipitera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur terre, et les îles espéreront en sa foi. Ainsi a dit le Dieu, l'Éternel qui a créé les cieux et les a déployés, qui a étendu la terre avec tout ce qu'elle produit, qui donne la respiration au peuple qui est sur elle, et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé dans la justice. Je te prendrai par la main, je te garderai. Je te donnerai pour alliance au peuple et pour lumière aux nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et du cachot ceux qui habitent dans les ténèbres.
Thank you. Et le deuxième texte, c'est Matthieu 3, des versets 13 à 17. Alors paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu'au Jourdain auprès de Jean pour être baptisé par lui. Jean voulait l'en empêcher et disait « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé, pas toi. Pardon, baptisé par toi. Et c'est toi qui viens à moi. » Mais Jésus lui répondit « Laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laisse faire. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. »
Mon Dieu, mon Père, nous chantons le cantique 4306. Prenez place. Ce dimanche est, selon la tradition et le calendrier liturgique, le dimanche où l'on célèbre, où l'on commémore le baptême du Seigneur, le baptême de Jésus. Alors je ne me suis pas foulé parce que cette phrase, je vous l'ai dite il y a exactement un an. Vous en souvenez pas, vous avez raison, et moi non plus, si je n'avais pas regardé. Donc j'avais commencé ma prédication, et ça n'a rien d'étonnant, puisque c'est un peu le principe d'une tradition et d'un calendrier liturgique de revenir toutes les années, à date fixe. Mais alors rassurez-vous, je ne vais pas vous faire la même prédication, encore que je ne suis pas sûr que beaucoup de gens s'en apercevraient. Mais ce n'est pas le même texte proposé aujourd'hui. Et bien évidemment, le texte de Matthieu parle lui aussi du baptême de Jésus, puisque, comme je le disais, le premier dimanche qui suit le 1er janvier, c'est l'Épiphanie, et que le dimanche qui suit l'Épiphanie, c'est la célébration du baptême du Seigneur. Bon. Et chaque texte qui raconte ce baptême a son petit point particulier, et pour paraphraser le poète, je dirais chacun a son petit mérite, chacun a quelque chose pour plaire. Et il y a dans ce passage de Matthieu un petit échange entre le Baptiste et Jésus, échange assez étonnant, voire amusant. On peut imaginer ce dialogue comme une discussion à haute voix, devant tout le monde, mais on peut aussi se le représenter comme une sorte d'aparté. Cela arrive parfois au culte, lorsqu'un flottement apparaît, ou d'ailleurs dans n'importe quel autre événement qu'on a préparé à plusieurs, un flottement apparaît et les intervenants doivent régler le problème imprévu ou une mécompréhension qui se révèle. Et on fait quoi là? Est-ce que c'est imprévu? Et j'imagine assez bien le Baptiste s'approcher de Jésus et lui dire, en baissant la voix, « Dis donc, on a un souci là. Normalement, c'est toi qui devrais me baptiser, pas le contraire. Qu'est-ce qu'on fait ?» Et Jésus répond quelque chose qui pourrait se traduire par « Allez, laisse filer, si ça se trouve, personne ne va s'en rendre compte. » Oui, mais simplement, si Matthieu le rapporte, c'est que des gens, justement, s'en sont rendus compte. Quelque chose n'allait pas, quelque chose clochait. Oh, certainement pas sur le moment. Il n'y avait aucune raison de s'en offusquer à ce moment-là. Mais par la suite, ce baptême de Jésus par le Baptiste, par Jean, soulevait un certain nombre de problèmes. Le problème de Jean était un baptême de purification du péché. De quel péché Jésus devait-il se faire pardonner? Lui dont la confession de foi dit justement qu'il est né sans le péché. Et si Jean baptise Jésus, cela ne signifie-t-il pas qu'il lui est supérieur? Aujourd'hui, nous n'avons pas trop de peine à imaginer que le disciple dépasse le maître. C'est même une expression toute faite. Mais à l'époque, on avait une vision un peu décliniste, déjà à l'époque. Les nouvelles générations étaient pires que les précédentes et les disciples plus mauvais que les maîtres. Ce baptême de Jésus, si évident pour le lecteur d'aujourd'hui, était plutôt dérangeant pour les premières générations de chrétiens. Et c'est probablement la raison pour laquelle Matthieu s'est senti obligé de relater ce dialogue entre les deux hommes. Seul l'évangéliste Luc laisse entendre que Jésus et le Baptiste ont un lien de parenté. Donc, ils se rencontrent et ils ont ce petit dialogue surprenant. Il y a d'autres passages dans les évangiles qui essayent de résoudre cette ambiguïté, mais Matthieu est le seul à relater cet échange précis. Alors, qu'allons-nous faire de ces deux phrases? Allons-nous, comme certains biblistes contemporains, modernes, dire « Ah ben voilà, on a trouvé la raison pour laquelle Matthieu a mis ce dialogue. Bon, on a résolu le problème, passons à autre chose, c'est pas très intéressant. » Ou alors, nous pourrions inversement reprendre une vision plus classique, plus traditionnelle, en disant « Eh bien, si Matthieu l'a mise là, c'est parce que ce dialogue a eu lieu, donc il faut qu'on le sache. » Cette seconde position ne prend pas plus au sérieux que le passage et ne lui accorde pas plus d'importance et d'intérêt que la première, peut-être même moins. Que peut-on faire aujourd'hui d'une telle conversation? Pour moi, il n'est pas indifférent qu'elle ait lieu à propos de quelque chose d'assez important ou appelé à le devenir, c'est-à-dire le baptême. Et quand je dis quelque chose, j'entends un rite, un sacrement, si on veut parler un langage plus conforme. Il ne s'agit d'ailleurs pas de n'importe quel rite, justement un des rares que le protestantisme ait conservé et auquel il attache une importance non négligeable. Et que nous dit donc cette phrase, enfin ces phrases de l'Évangile sur nos pratiques rituelles, sur ce qui fonde même notre pratique. Reconnaissez avec moi qu'il n'est pas innocent que l'Évangile raconte que le rite fondateur de ce qui marque chez nous le début de la foi ou du chemin de foi n'ait pas été conforme dès l'origine. Le seul modèle que les disciples auront du baptême, c'est celui de Jésus par Jean le Baptiste. Or, nous dit Matthieu, le seul baptême décrit n'est pas fait correctement. Jésus dit même « laisse faire pour le moment, pas grave ». Nous verrons dans les récits des livres des Actes que les baptêmes ne suivent pas un rituel très construit, très formel. Et donc je m'étonne à chaque fois que dans mes conversations, notamment avec des collègues d'autres églises, mais pas seulement, de ce qu'on me parle de la validité du baptême. Oui, mais si on ne le fait pas de telle ou telle manière, avec ou sans tel élément, si ce n'est pas dans telle condition, ou au contraire, si c'est dans telle condition, est-ce que le baptême est valide ? Valide aux yeux de qui, je vous le demande. Je ne sais pas comment vous vous représentez le royaume de Dieu, mais quant à moi, je ne l'imagine pas pourvu d'une administration vérifiant si vous avez le bon tampon et la bonne signature sur vos différents documents. Je n'ai rien contre l'administration terrestre, je suis même prêt à lui reconnaître une certaine utilité, voire une nécessité, mais j'espère qu'elle n'a pas son équivalent au niveau céleste. Je prie qu'il n'existe aucune bureaucratie divine. Néanmoins, Jésus a voulu être baptisé. Donc, le baptême, à défaut de validité, a une importance, une signification pour lui. Laquelle ? Si nous écartons d'emblée, et par principe, en ce qui concerne Jésus, l'idée d'une purification du péché, que nous reste-t-il ? Jésus se joint à son peuple, à une aspiration de son peuple, celui d'un rapprochement avec Dieu, celui d'une amélioration de sa vie, de sa spiritualité. Lui, le Fils incarné, Dieu qui s'est approché, Emmanuel, Dieu avec nous, ne regarde pas de haut nos pratiques imparfaites et nos aspirations maladroites. Il y participe par solidarité et leur donne un sens, une légitimité. Mais cette légitimité, nous rappelle Matthieu, ne réside pas dans leur conformité à un rituel établi ou à une doctrine irréprochable, mais par la grâce et l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Cela ne signifie évidemment pas que la forme soit sans importance. Jean et Jésus ne sont pas mis à faire n'importe quoi, ils n'ont pas transformé le baptême en comédie musicale, ni se sont mis à danser la polka. En acceptant d'être baptisé et en ne baptisant jamais lui-même, Jésus ne nous enseigne-t-il pas que nos rites ne sont que purement humains, mais qu'ils ont de l'importance, y compris aux yeux de Dieu, qu'ils sont à prendre au sérieux, sans jamais toutefois être divinisés, sans jamais être absolutisés. Nous ne devons pas confondre l'acte humain exécuté, le baptême et la scène en ce qui concerne les protestants, avec la signification spirituelle accordée par Dieu. C'est ce qu'on appelle un symbole, quelque chose d'humain qui signifie, qui représente, qui dit et rappelle une réalité divine. Dans la foi biblique, il n'y a pas de place pour le mépris des pratiques toutes humaines qui parlent de Dieu. Mais il y a un refus de les diviniser. Ne jamais confondre le geste avec ce qu'il signifie. Ne pas identifier le signifiant au signifié. C'est une tentation toujours présente. Il n'est pas indifférent d'être ou de ne pas être baptisé. Non pas que le baptême aurait une valeur en lui-même. En théologie, on dit « ex opere operato ». Mais parce qu'il est important que l'on sache que l'amour de Dieu en Jésus-Christ valide notre vie et lui donne une valeur. Or, le baptême est le signe de cet amour. Que ce signe ait été posé au tout début de votre existence, avant même que vous ne le compreniez, qu'il ait été demandé au moment de votre passage à l'âge adulte ou à un âge plus avancé, peut avoir de l'importance pour vous. Il n'en a aucune sur la grâce signifiée. L'important est que vous soyez conscient aujourd'hui de cette grâce. Alors j'entends déjà certains affirmer « Oui, mais on peut passer de tout ce fatras religieux et symbolique. Il suffit de comprendre ce que signifie le baptême et c'est bon. » Oui, en théorie seulement. C'est donner un peu trop de place à la dimension intellectuelle, voire cérébrale, au détriment de la dimension corporelle. Tentation très protestante, très réformée, dirais-je même. La tentation est de diviser l'homme, de ne s'adresser qu'à son intellect, ou alors qu'à ses émotions, ou alors qu'à son corps. Or, la foi concerne tout cela, parce que Dieu considère toute notre personne. C'est pour cela que les rites, même imparfaits, nécessairement imparfaits, sont utiles et nécessaires. Ils nous rappellent dans tous les aspects de notre vie cette parole que le baptême du Christ nous a fait savoir, connaître. En Jésus, vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu. C'est une joie pour Dieu. Que cela soit aussi une joie pour vous. Et nous chantons la première et la dernière strophe du cantique « Jésus reçoit le baptême ». Nous restons debout pour confesser ensemble notre foi. Le Christ, Sauveur et Seigneur, nous réconcilie avec le Père par la foi seule. Il nous libère de la malédiction de la loi et de toute culpabilité. Par l'annonce de l'Évangile, le don du baptême, la célébration de la scène, il nous rassemble en l'Église sous l'autorité des Écritures, illuminé par le Saint-Esprit. Il nous associe à son statut filial et trouve à son œuvre de libération et de vie en vue du témoignage et de la prière, du témoignage et du service. Par là, il nous permet de collaborer avec lui pour contribuer à faire du monde une création de Dieu dans l'attente de la nouveauté du royaume. Grande et merveilleuse, grandes et merveilleuses.
Thank you. fait qu'une fois, donc. Parce que normalement, il est... Prenez place. L'apôtre Paul l'affirme dans la seconde lettre aux Corinthiens, pardon. Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est maintenant le temps du don, le moment de l'offrande. Seigneur Dieu, c'est en ton nom que nous avons fait cette offrande, c'est à ton service et à ta gloire que nous la consacrons. Amen. Alors, à moins qu'il soit arrivé sans que je le voie, mais notre président a dû être bloqué par la neige. Oui, alors, parce que pour qu'il ne vienne pas, c'est qu'il y a vraiment... Ah, il est là! Il est là-haut! Ah bah du coup, il va rester là-haut et c'est quand même Pierrick qui va s'y coller. Alors par contre, t'as écrit un truc noir sur noir, c'était un peu compliqué à lire. Hein.
Il est où? Ah oui. Donc à tous les coups, il va venir me reprendre après. Donc les annonces du jour. Merci à tous ceux qui ont participé à ce culte. Merci à Vincent. Merci pour la projection à Agnès et Antoine. Merci. Pardon. Bien sûr. Merci à l'orchestre, bien sûr. On ne va pas les oublier. Merci à ceux qui entourent nos jeunes aujourd'hui, pour Cathé et à l'école biblique. Et merci à Gérard qui a enlevé le beau sapin. Voilà. Le 14 janvier à 14h30 aura lieu la cérémonie d'enterrement de Madame Josette Belleville, que certains doivent connaître, elle était engagée dans notre paroisse. Voilà, nous pensons à sa famille et à ses proches. Donc mardi à 7h comme d'habitude. Pardon, je vais essayer de me rapprocher comme ça. Mardi à 7h, prière, comme d'habitude. Mercredi à 18h aussi. Mercredi 14 janvier à 20h, il y aura les amitiés judéo-chrétiennes à la Puya, avec comme texte, comme thème les textes en fête.
Sur le Kaddish.
Norbert dira quelques mots. Pardon. 19h30, Norbert. Norbert en parle après. Deux secondes. Jeudi 15h, je vais aller plus vite. Jeudi 15h, étude biblique à 20h au temple. Samedi 17h, 17, culte à 18h. Donc samedi 17. Nous avons de l'œcuménisme le 20 janvier à 19h au Nemours. Le thème, ce sera les jeunes mères. Et ce sera suivi d'un débat. Il y aura un film au Nemours suivi d'un débat, c'est ça? J'ai dit une bêtise encore?
C'est le prix du jury de Cannes.
Œcuménique, d'accord, oui. Et le titre? Le titre, c'est Jeune Mère. Magnifique. J'ai des informations vraiment. Merci Pierre. C'est écrit tout petit, hein. Vraiment, je vous promets que c'est écrit tout petit. Le 22 janvier à 19h, il y aura une célébration œcuménique à la salle arc-en-ciel. Le groupe PPP se retrouve aujourd'hui à 11h30. J'aimerais vous rappeler que certains paroissiens de notre paroisse donc, iront à la messe de Cuva le 18 janvier, donc à 10h30, dans le cadre d'un échange. Enfin, ce n'est pas un échange de paroissiens, n'est-ce pas? C'est un échange, tout ce qui est le plus fraternel, tout à fait. Voilà, n'hésitez pas à vous joindre à vous, à eux, et à vous tourner vers Andrea, c'est ça, pour plus d'infos. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Voilà, donc n'hésitez pas à me reprendre et Norbert à venir dire un petit mot. Et Andrea.
Oui, donc les paroissiens qui monteront à Cuva la semaine prochaine, c'est pour ouvrir la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Et il y aura donc le dimanche d'après, le 25, où il y a certains paroissiens, frères et sœurs catholiques, qui viendront à notre culte ici au temple et participeront aussi par la prière d'intercession. Et puis, puisque je suis là, j'enchaîne. Une petite information, la chorale Accord et Dissonance, dans laquelle chantent Marguerite et Alexandre, aura un concert ce soir à Verrier du Lac à 18h. Donc si jamais... Merci.
Bonjour à celles et à ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer. Je voudrais dire deux choses. La première, au sujet de Josette Belleville. Effectivement, elle était très engagée dans la paroisse avec son mari Edmond Nano Belleville. Très engagée et très anciennement engagée. Parce que dans la paroisse, vous savez que quand on veut voter, on doit se faire inscrire et... Josette, elle portait le numéro 5, ce qui veut dire qu'elle était très engagée dans la paroisse depuis très longtemps. Ensuite, je voudrais appeler votre attention sur la conférence de l'amitié judéo-chrétienne, donc mercredi. Alors effectivement, j'ai été moi aussi surpris, et bravo d'avoir noté 19h30, ça m'a aussi surpris, parce que ça a toujours été 20h, donc je suis un petit peu surpris, mais enfin, bon, peu importe. Je vous rappelais l'attention, cette conférence, elle va être donnée par le docteur Albert Fachler, qui est le président de la communauté israélite de Chambéry. Albert Fachler, c'est un érudit. Érudit parmi les érudits. Donc, le thème, c'est le Kaddish. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est que le Kaddish. Le Kaddish, il est récité, il est prononcé lors du décès d'un membre de la communauté. Mais il est aussi prononcé à la fin d'une commémoration. Et c'est le cas notamment d'une tragédie. C'est le cas notamment ainsi en novembre, pour commémorer la rafle des Marquisats en novembre 43, et également en juillet pour commémorer la rafle du Veldiv à Paris en juillet 42. Alors Albert Fachler, certes c'est le Kaddish, mais Albert Fachler, il a cette faculté de saisir un tout petit fil, et à partir de ce fil, il va confectionner une trame d'une beauté et d'une densité extraordinaire. Donc, si vous avez la possibilité d'aller l'écouter, vous allez vous régaler, il va vous réjouir. Merci.
Unissons-nous dans la prière d'intercession. Après son baptême, Jésus fut conduit au désert. Après avoir jeûné, il eut faim. Nous te prions, Seigneur, pour cette multitude de misérables condamnés à mort par manque de pain. Au moment où nous partageons ta parole, rapproche-nous de ces frères et sœurs plongés dans l'extrême malheur. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, la justice qui nous fait égaux, frères et sœurs, et qui nous fait humains à part entière, celle qui nous fait enfants de Dieu. Nous te prions pour que vienne cette justice pour les opprimés, les maltraités, les victimes de toute espèce, les méprisés, les abandonnés. Nous te prions, Seigneur, pour ton Église, née à ton baptême, née au désert, quand tu as ouvert le monde. Tu as ouvert au monde ta conscience de Messie. Quand cette Église vive un esprit de service et non d'arrogance, de dépouillement et de transparence, qu'elle annonce ainsi ta présence à toi, le Messie. Ainsi, poussés par ton esprit, nous te disons avec confiance, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, ce dimanche clôt le ton de Noël. Alors, je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction. Noël, voyez de quel grand amour le Seigneur nous a aimés. Émerveillons-nous d'être ainsi aimés par Dieu. Allons dire à tous les humains, il est né Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu présent à jamais. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Sa lumière brille sur vous, elle éclaire le monde. Sa paix vous est donnée, elle s'étend sur toute la terre. Alléluia. Amen. Et nous chantons donc, rendons gloire à Dieu notre Père.
Thank you.
Bon dimanche et bonne année à tous ceux à qui je ne l'ai pas souhaité.
Merci.